Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité, coup d'envoi ce lundi aux cliniques universitaires de Kinshasa de la campagne de vaccination contre le coronavirus. La cérémonie a été présidée par le ministre sortant de la Santé en présence du corps diplomatique. Reprise timide des activités scolaires aujourd'hui à Butembo après 2 semaines de paralysie suite aux manifestations réclamant le retour de la paix dans la région. Cependant, les commerces restent encore fermés dans la ville. Notre invité, c'est l'abbé Franck Mboma, ce prêtre catholique et analyste et sociopolitique résident en Allemagne, qualifie de discriminatoire la proposition de loi de Noël Tchani qui conditionne l'accès au poste de chef de l'État par la détention de la nationalité congolaise de père et de mère. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord cette nouvelle. Au Tanganyika, 6 morts. C'est le bilan provisoire de pluies qui se sont abattues hier dimanche sur la ville de Kalemie. Les maisons des infortunés se sont écroulées. Cette catastrophe naturelle a touché plus la colline d'État. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes emportées par les eaux de pluie diluviennes depuis une semaine. Lancement ce lundi à l'école de santé publique des cliniques universitaires de Kinshasa de la campagne de vaccination contre le coronavirus. La cérémonie a été présidée par le ministre sortant de la santé publique, Dr Eteni Longondo, en présence du vice-président de l'Assemblée nationale, du corps diplomatique et de représentants des agences du système des Nations Unies. Un reportage de Jean-Pierre Elali Coco.
Je lance la campagne de vaccination contre la COVID-19. Je vous remercie.
C'est avec ce mot et applaudissement que le ministre sortant de la Santé publique a donné officiellement le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Dans son adresse, le ministre Eteni Longondo a appelé les Congolais à se faire vacciner pour leur santé et celle de leur famille. Selon les prévisions, 900 000 personnes sont attendues pour cette première phase. Après la cérémonie officielle, le ministre Eteni Longondo s'est fait vacciner, suivi par une trentaine d'autres personnalités, dont le chargé de bureau de l'OMS et l'ambassadeur de l'Union européenne. Le ministre s'est voulu rassurant face aux rumeurs et fausses informations.
Il y a beaucoup plus de bénéfices à ces vaccins. Et je ne suis pas rentré à la maison immédiatement après ma dose de vaccin. Je suis resté ici pendant 15 minutes pour qu'on observe s'il y a des effets secondaires ou pas. Maintenant qu'il n'y en a pas, je suis libéré.
Quelles sont les catégories de personnes concernées par cette première phase de la vaccination? Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne.
Les plus de 55 ans, comme moi, on a besoin de se faire vacciner. Quand on a des maladies comme le diabète, comme l'hypertension, et bien sûr si on est personnel de santé, on est aussi plus exposé.
Dans l'actualité, il y a aussi ces tête-à-tête ce lundi à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et son homologue somalien Mohamed Abdullahi Mohamed en visite officielle en RDC. Au menu, la crise en Somalie. Les deux chefs d'État se sont exprimés à l'issue de leur échange. On écoute un extrait de l'adresse du président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, dans ses propos recueillis par Alain Rungmouchige.
Nous avons également, comme vous pouvez vous l'imaginer, parlé de la situation en Somalie, un pays qui a énormément souffert des affres de la guerre. Et dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie. Et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. Et nous l'avons assuré du soutien de l'Union africaine et de sa disponibilité à accompagner le dialogue interne et à continuer la recherche de la paix et de la sécurité pour le bien-être du peuple somalien.
Ajoutons que la crise politique en Somalie est née de la signature lundi dernier par le président Mohamed Abdullahi de la loi controversée prolongeant de 2 ans son mandat à la tête du pays. Un mandat qui s'est achevé le 8 février dernier sans que des élections aient pu se tenir. À Butembo, pendant ces temps, plus de 30 présumés bandits armés ont été présentés aujourd'hui à la presse par le maire de la ville. Parmi eux, il y a des criminels utilisés par des militaires militaires déserteurs pour déstabiliser la région et des miliciens Maïmaï qui planifiaient d'attaquer la MONUSCO le 15 avril dernier, selon le maire, qui invite par conséquent ses administrés à plus de vigilance pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Reportage à Boutembo de Grâce Amzati.
Ils sont au total 36, tous porteurs d'au moins 3 armes à feu, des armes blanches et des gris-gris. Le maire Sylvain Kanyamanda explique.
Le premier groupe, c'est un groupe de criminels qui utilisaient des armes à feu et que leurs responsables, leurs chefs, ce sont des militaires déserteurs, des Noé FARDC, qui usent de leurs armes pour aller endeuiller notre communauté, notre population. Et le dernier groupe, ce sont des Maïmaï qui, profitant de ces semaines ici de ville morte, de ces manifestations contre la MONUSCO, qui préparaient une attaque sur la ville, une attaque notre camp de Rwanda, une attaque sur les QG de la MONUSCO. Et que nos services que nous félicitons ici sont parvenus à déjouer les jeux.
D'où son appel à toute la population à plus de vigilance et de responsabilité pendant cette période.
Nous pouvons penser qu'on est en train de réclamer X choses, mais derrière ça, on est infiltré avec d'autres qui planifient d'autres actions. Imaginez-vous si la ville était attaquée le 15 au nom de ces manifestations contre la MONUSCO, qui serait responsable? Enfin, je dis à la population d'être calme. La ville est surveillée, la ville est protégée.
Après présentation, tous ces présumés bandits devraient être transférés au parquet militaire, nous a indiqué le maire. Boutembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Et puis les activités scolaires ont timidement repris aujourd'hui lundi à Boutembo après 2 semaines de paralysie à la suite des manifestations demandant le retour de la paix dans la région. Cependant, les commerces restent fermés dans la ville. Sadiki Aboubakar.
Dans la plupart des écoles primaires et secondaires de la ville, moins de la moitié d'élèves se sont présentés ce lundi. C'est le cas de l'Institut Kambali, où les proviseurs affirment qu'un tiers d'élèves seulement s'est présenté. Ceux qui étaient présents ont été occupés par les enseignants disponibles. Non loin de là, dans la vallée de Kavaindi, la quasi-majorité des élèves n'a pas répondu à l'appel. Nous avons d'ailleurs rencontré un enseignant rentrant chez lui, faute d'occupation. Le même constat a été fait au complexe scolaire La Bourgeoisie, où les enseignants se sont trouvés face à un effectif d'élèves inférieur à la moyenne. Le chef de la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2, Ada Kudawa, appelle à la mobilisation de tous, parents, enseignants et élèves à la reprise normale des cours ce mardi. Pour ce qui est des activités commerciales, toutes les galeries des commerces et les grands magasins de la ville restent encore fermés. Tous nos efforts pour avoir la réaction de la Fédération des entreprises du Congo FEC à ce sujet n'ont pas abouti. Toutefois, à part les grandes activités commerciales dans la ville, tout est presque revenu à la normale. Boutembo, Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Autre nouvelle en plus bref à Beni, toujours au Nord Kivu, le trafic a repris timidement cet après-midi après une matinée caractérisée par la paralysie des activités. Des mototaxis et quelques véhicules étaient visibles sur le boulevard Nyamwisi. Quelques rares commerces ont pu ouvrir leurs portes. D'autres qui craignent les menaces des manifestants ont gardé les portes closes. Dans certains quartiers de la ville, des barricades sont encore visibles. Certains commerçants qui tentent d'ouvrir n'y arrivent pas. Pour mémoire, c'est depuis 2 semaines que les activités sont paralysées par des manifestations pour protester contre l'insécurité. Ce week-end, les autorités locales et certaines organisations ont réclamé la reprise des activités. À Bounia, le maire de la ville invite ses administrés à vaquer à leurs occupations quotidiennes, appel lancé suite aux rumeurs qui font état d'une journée ville morte annoncée par la société civile. Ferdinand Fimbo estime que cette situation va pénaliser les opérateurs économiques qui sont en proie à l'insécurité. Il est au micro de Jean-Claude Lokidile.
Avec les coûts de vie, les routes qui sont fermées presque sur tous les axes, ça constitue un problème très sérieux pour le ravitaillement de la ville de Bougne. Et aujourd'hui, demander à ce que les gens puissent observer des journées ville morte, je pense que là nous envoyons droitement les gens vers la tombe, ce qui n'est pas une situation que nous pouvons vraiment accepter en ce moment, parce que une maman, par exemple, vendeuse de tomates, vous lui demandez de rester à la maison avec ses tomates, qu'elle ne sera pas consommée. Et après 2 jours, peut-être ça va pourrir encore. C'est son capital qui disparaît. Nous sommes en train de demander à la population de continuer à vaquer librement à ses occupations. Les temps sont fâchés, la crise est là. Et si nous croisons encore les bras, je pense que c'est une occasion encore de plus pour nous appeler à mourir. Donc nous avons tout intérêt à continuer à travailler, tant soit peu, à continuer encore à faire ce qui est dans ses prérogatives pour qu'on arrive quand même, tant soit peu, à résoudre ces problèmes.
Justice à présent, condamné depuis 2005 par la Cour internationale de justice à payer des réparations au profit de la RDC pour violation de la souveraineté territoriale et des droits de l'homme entre 1998 et 2003, l'Ouganda n'essaie toujours pas exécuté. Au cours d'un entretien ce week-end avec les médias congolais, le vice-premier ministre et ministre sortant de la justice annonce pour demain, mardi, la reprise des plaidoiries d'après maître Bernard Takaïché. Ayant constaté les atermoiements de l'Ouganda, le ministère de la Justice a reconstitué la défense congolaise qui a ramené le dossier à la Cour internationale des justices. Il s'est confié à Billy Valutumba.
Il y avait de la mauvaise foi dans le chef de l'Ouganda qui faisait semblant de négocier alors qu'il n'avait pas l'intention de négocier. Alors la RDC a pris la décision de clore ce dossier devant la justice et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Quand j'ai pris le dossier, il y a eu une mauvaise gestion de ce dossier-là. J'ai essayé de remettre un peu les choses dans l'ordre. J'ai dissous la commission qui était là, une histoire budgétivore. J'ai récupéré tous les avocats internationaux qui avaient fait déjà défection du fait que la gestion n'était pas correcte. J'ai nommé un autre co-agent, la personne du professeur Mingacha. Et aujourd'hui, sans risque de me trompé, nous avons une très bonne défense. Les plaidoiries vont commencer d'ici le 20 avril ici. Et je pense à l'issue de cette procédure de plaidoirie, nous aurons de bons résultats, même au-delà de ce que nous on prétendait. Avant, on avait tablé sur 13 milliards de dollars. Mais pour le moment, sauf appréciation de la Cour, mais je crois que les experts qui ont travaillé, avec l'appui de l'équipe que nous avons mise en place, nous sommes en train de plancher sur 76 milliards de dollars. Et voilà pourquoi je dis à la République démocratique du Congo, nous devons être respectueux des engagements que nous prenons. Et je pense qu'aujourd'hui, ces avocats sont en train de nous prendre au sérieux, parce qu'ils sont en train d'être payer.
Pour mémoire, à la suite d'une plainte de la RDC, la Cour internationale de justice avait conclu que l'Ouganda était auteur entre août 1998 et juin 2003 de l'occupation de l'Ituri, de violation des lois internationales sur les droits de l'homme, d'usage illégal de la force et de pillage et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC, selon l'arrêt rendu en audience publique à la Haye. À Lubumbashi, la vente des œufs s'est fait actuellement à plusieurs endroits et les prix varient de 4500 francs à 5000 francs, voire 5500 francs congolais. Ce prix, bien qu'abordable dans la ville, est encore jugé excessif par certains habitants de la ville qui aimeraient que les fermiers en produisent davantage. À Lubumbashi, une correspondance de Jean Gandou.
La production des œufs dans le Haut-Katanga se fait par plusieurs fermiers. D'autres encore les importent de la Zambie voisine, ce qui fait que le marché local est inondé de ces produits. Un carton de 12 plateaux contenant 30 œufs chacun revient à 29 dollars américains. Chez certains revendeurs grossistes, un plateau est vendu à 4500 voire 5000 francs congolais. Chez les détaillants, des œufs se négocient à 500 francs congolais. Chez d'autres encore, ce sont 3 œufs qui sont vendus à 500 francs congolais. Ce prix, bien que paraissant abordable, certains le choix rencontré voudrait qu'il soit encore revu à la baisse. Témoignage de ce père de famille rencontré dans la commune de Lubumbashi.
Les prix auparavant c'était 4 œufs pour 500 francs, mais pour le moment ça devient 3, il y a d'autres qui mettent même 2. Il faut que les œufs qui viennent de Kasumbalesa, ça devient à 5000, 4500 le plateau, mais auparavant c'était 3500. On souhaite que ça diminue encore, que les fermiers d'ici produisent beaucoup pour que la situation change.
Certains fermiers ont installé des points de vente à travers la ville pour se rapprocher davantage des revendeurs et autres consommateurs, ce qui permet à certains commerçants de ne pas faire des longs déplacements jusqu'en Zambie pour s'approvisionner en ce produit prisé par les louchois. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement britannique a interdit aujourd'hui l'entrée au Royaume-Uni des voyageurs venant de l'Inde en raison d'une aggravation de la pandémie du coronavirus. Le ministre britannique de la Santé publique affirme à la presse avoir pris une décision difficile mais vitale étant donné que l'Inde est placée sur la liste rouge. Matt Hancock ajoute que cette décision oblige tout Britannique et Irlandais entrant dans le pays à observer une quarantaine de 10 jours dans un hôtel à ses frais. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Union africaine ont chacune leur stratégie, mais certains pays ne les attendent pas pour s'approvisionner auprès des fabricants, recevoir des dons ou produire localement sous brevet étranger. L'Égypte et le Nigeria, par exemple, ont décidé de financer des recherches pour trouver leur propre vaccin contre le coronavirus. Le Centre de recherche national égyptien a été autorisé à lancer les essais cliniques de son Covivax avec l'ambition de produire davantage sur place pour desservir le marché intérieur et d'exporter en Afrique.
L'invité.
Notre invité, c'est l'abbé Franck Mboma. Ce prêtre de l'Église catholique, chercheur et analyste sociopolitique résidant en Allemagne, réagit à la proposition de loi de Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle de 2018. Il estime que conditionner l'accès au poste de chef de l'État pour la détention par la détention de la nationalité congolaise de père et de mère est de nature séparatiste et discriminatoire. Il s'entretient à ces sujets avec Jirlo.
Monsieur l'abbé Franck Mboma, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste Gerlo Ngembo Luabong André.
Pourquoi estimez-vous non fondée la proposition de loi de Noël Tchani sur l'accès à la fonction du président de la République?
Nous avons suivi sa sortie médiatique. D'abord, il y a lieu de rappeler que la RDC, c'est un état de droit, et comme état de droit, la liberté d'expression, d'opinion, de la libre pensée est admise et garantie par rapport à beaucoup de sujets et matières. Par ailleurs, il y a lieu de nous questionner sur les vraies motivations de cette sortie médiatique. Ça rime à quoi exactement? Personnellement, je trouve qu'il y a lieu de prévenir, car cette sortie médiatique nous semble comme un ballon d'essai lancé dans l'opinion des analystes avertis. Nous intervenons sur vos zones, nous suivons l'actualité du pays, nous savons comment ça se passe, nous savons comment cela s'est passé aux années passées. On ne va pas aller chercher des prophètes pour venir encore nous expliquer, ou bien on ne va plus aller chercher Jésus pour venir nous aider à comprendre. On peut déjà comprendre, mais par rapport à ce qui est dit dans cette proposition, bien dans cette opinion, il y a lieu de prévenir que nous sommes en train de traverser des zones de turbulence politicienne et socio-sécuritaire.
Alors que reprochez-vous concrètement à cette proposition?
Ce débat sur les critères de l'éligibilité du chef de l'État congolais ne s'arrêterait pas seulement là où lui pense les boucler en tout cas. Car si nous devons recourir aux dispositions constitutionnelles, il y a lieu de lui rappeler que le prescrit de l'article 72 au point 1 ne doit pas se lire de manière détachée, sans aucune allusion ou incidence avec ce que nous avons par ailleurs à l'article 10 dans son intégralité ou aux articles 12 et 13. Et c'est à ce niveau que nous nous écartons de lui et aussi de sa suggestion à cause des deux autres hypothèses qui peuvent lui être présentées comme objection. Admettons pour un premier cas que nous ayons un chef d'État issu des parents d'origine congolaise, des pères et des mères, pour nous mettre d'accord avec notre cher compatriote, le docteur Noël Tchani. Et admettons une réalité, une situation que le même chef d'État ait épousé une non-congolaise et qu'ils ont des enfants de double nationalité. Et si la République démocratique du Congo se trouvait par hasard en situation conflictuelle avec le pays de provenance de son épouse et avec des enfants qui viennent aussi en partie de ce pays, est-ce que la loyauté ou la neutralité dont il parle serait vraiment garantie quand il sera question d'établir par rapport à certaines questions très sensibles par rapport à la bonne marche de l'État? C'est une parenthèse que nous pouvons ouvrir, c'est une parenthèse qui nécessiterait encore des réflexions et des analyses. Et un deuxième cas que je peux encore évoquer, lui parle de la loyauté du chef de l'État qui ne peut provenir que de parents congolais. On peut se mettre d'accord avec lui. Mais comment réagirait-il si maintenant un autre compatriote venait avec un autre projet de loi qui dirait simplement ou qui suggérerait que tout Congolais qui a déjà acquis une autre nationalité ne pourrait pas compétir au fauteuil présidentiel, et cela en conformité avec les principes de l'exclusivité et de l'unicité de la nationalité congolaise tel que c'est dit à l'article 10. C'est à ce niveau-là que nous trouvons que la constitution de la République démocratique du Congo est déjà claire.
Pensez-vous que cette proposition va anéantir la dynamique imprimée par le chef de l'État qui tient à assouplir justement les conditions pour la diaspora congolaise qui souhaite retrouver ses origines?
On doit composer avec les gens qui peuvent faire quelque chose pour ce pays. On ne doit pas donner la nationalité à n'importe qui. On ne doit pas laisser la loi électorale devenir un boulevard où même des chiens viendraient passer et postuler. Mais il faut vraiment jouer sur le réalisme pour éviter que demain nous nous retrouvions encore dans des situations qu'on devrait éviter.
Que redoutez-vous alors?
L'on ferait mieux de ne pas susciter des élans, des troubles qui ne nous apporteraient en réalité que des secousses populaires et aussi des tensions sociopolitiques comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour ne citer que ces cas-là comme exemple à Fastello.
Monsieur l'abbé Franck Mboma, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup aussi de votre part pour avoir pensé à moi.
C'était l'invité de Radio Okapi, l'abbé Franck Mboma, prêtre catholique, chercheur et analyste sociopolitique résident en Allemagne. Il était interviewé par Gilles Lungembo à Kinshasa. Il est 18h20. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté infiniment. Merci à Noël Luzitu Kikabambi qui a coordonné cette édition d'information sous la supervision de Pélé Kipelamondo.